Chers frères et sœurs, les circonstances particulières qui ont marqué cette année 2020 m'ont amené à choisir pour thème de ce message l'Église locale, son rôle et ce qu'en dit la parole. L'épidémie venue de la lointaine Chine qui a traversé océans et continents pour toucher tous les pays et toute l'humanité a eu et continue d'avoir un profond impact sur la vie communautaire de nos églises locales. Les moyens techniques mis à notre disposition via Internet nous permettent de garder un lien entre membres de nos communautés, certes à distance et virtuelle. La reprise de nos cultes avec les mesures de précaution imposées par nos autorités montre bien que notre vie communautaire d'Église a été touchée par cet événement mondial. Et j'ai dû reprendre mon introduction car je l'avais écrite avant le nouveau confinement qui est entré en vigueur depuis peu. Alors je me pose la question de savoir si l'ennemi de nos âmes ne veut pas se servir de ce temps de mise en sommeil de notre vie de communion fraternelle pour nous faire préférer plus tard la tranquillité de notre canapé et le choix via notre souris ou notre télécommande du culte ou du message que nous souhaitons entendre, celui qui ne nous interpelle ou ne nous remet pas trop en question. Si l'église de Corinthe avait été confinée, et eut les outils du XXIe siècle, n'aurait-elle pas zappé les messages de Paul? Il est vrai aussi que la vie d'une église locale n'est pas un long fleuve tranquille. Nous qui avons un peu de pratique en savons quelque chose. Chacun des frères ou sœurs qui la composent a ses qualités et ses défauts, son caractère, son histoire propre et bien sûr un don qui sert à l'avancement de l'église. Heureusement, Dieu n'a pas prévu une église de clones, il a pourvu à la diversité qui apporte l'enrichissement par le partage d'expériences de vie différentes, de dons différents. Cela demande de voir dans mon frère ou ma sœur cela et de laisser l'esprit m'enrichir par leurs moyens. Notre vieille nature n'aime pas trop que les autres empiètent notre zone de quiétude et de confort. C'est le philosophe Jean-Paul Sartre qui a écrit dans sa pièce Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Alors oui, le repli sur soi est un grand danger pour le chrétien de nos jours qui possède les outils lui permettant une pseudo-vie spirituelle numérique. Mais regardons ce que la parole nous enseigne à ce sujet. Tout d'abord, que signifie le mot « église » ? Pour beaucoup de nos contemporains, si on leur pose la question, ils vont vous répondre que c'est un bâtiment qui accueille des fidèles d'une religion donnée. Pour nous croyants, ce mot revêt deux réalités distinctes, mises en perspective par la parole et plus précisément par les livres du Nouveau Testament. Le mot français « église » vient du grec « ecclésia », formé de « ek » et « kaleo », ce qui signifie « hors de » et « appelé ». Ce que nous pouvons traduire par « appeler hors d'eux » pour les personnes constituant l'Église. Ce terme « ecclésia » apparaît 114 fois dans le Nouveau Testament. Il est présent seulement 3 fois dans les Évangiles, en Matthieu 16, verset 18, et 2 fois en Matthieu 18, verset 17. Ces deux dernières occurrences étant plutôt vues comme une congrégation juive. Donc ce mot est employé une seule fois, par le Seigneur lui-même quand il dit à Pierre « Et moi aussi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous comprenons que cela reste, lorsque le Seigneur en parle, une chose à venir. Ceci nous permet de penser que l'église n'a commencé qu'après l'ascension de Christ et la venue du Saint-Esprit. Pour nous, ce terme englobe donc deux réalités distinctes, l'Église universelle et l'Église locale. Mon sujet étant de vous parler de l'Église locale, je ne vais que brièvement évoquer ce qu'est l'Église universelle. Nous trouvons dans 1 Corinthiens 12, verset 13, une définition. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Dans Éphésiens 1, verset 22, Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'unité de ce corps est confirmée en Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un, vous êtes, car tous vous êtes un en Christ, pardon. Cette unité réalisée en un corps est affirmée par Paul dans Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, car aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. De nombreux autres passages nous parlent de cette Église universelle. Son commencement a lieu lors de la venue de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Plusieurs images sont utilisées pour décrire l'Église universelle, un corps comme nous l'avons vu, une épouse, comme nous l'indique Paul dans son épître aux Éphésiens, en mettant une analogie entre la relation conjugale et la relation de Christ et de son Église. Elle est aussi comparée à un édifice dont Christ est la pierre angulaire et qu'il construit par son œuvre de salut, chaque jour ajoutant de nouvelles pierres, de nouveaux croyants. Elle est aussi un sacerdoce, selon ce que nous dit Pierre dans son épître. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous trouvons associée à l'Église la notion de troupeau. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cela nous indique que Jésus, s'adressant à ses disciples juifs, leur indique que d'autres brebis, les croyants non-juifs, formeront un seul troupeau, l'Église universelle. Une injonction de Jésus à Pierre nous rappelle cette notion de troupeau. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Une autre image est utilisé par Jésus pour la relation de l'Église avec lui et celle du cep et des sarments. Il exhorte l'Église à demeurer en lui pour porter du fruit. Nous comprenons que l'Église universelle n'est connue dans son ensemble que de Dieu seul. Elle est son œuvre. Nous n'en voyons qu'une infime partie. Au cours de nos rencontres, dans nos relations professionnelles ou autres, lorsque nous témoignons de notre foi, ou lorsque nous recevons le témoignage de la foi et de l'espérance d'une personne, alors nous découvrons que nous partageons la même foi, le même salut et la même espérance. Nous pouvons voir une pierre vivante de cet édifice qu'est l'Église universelle. Mais qu'en est-il de l'Église locale? Que nous enseigne la parole? Quand peut-on parler d'une Église locale? Certaines caractéristiques définissent une église locale néo-testamentaire. Je comprends l'étendue du sujet et je n'ai aucunement la prétention d'apporter un éclairage exhaustif sur ce thème. Quelles sont donc les caractéristiques qui nous font dire qu'un tel groupe de croyants forme une église locale? Est-ce qu'un groupe se retrouvant pour écouter une prédication diffusée ou pour une étude biblique forme une église locale? Ou est-ce une question de nombre minimum de fidèles ou du lieu de rencontre? Y a-t-il une organisation avec des responsables identifiés et définis? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, nous n'avons que le récit du livre des Actes et les Épîtres pour nous enseigner sur la pensée divine sur ce sujet. Plusieurs points nous indiquent ce qui définit une authentique église locale. Autant l'Ancien Testament, fixé d'une manière très précise par la loi mosaïque et les livres du Pentateuque, le cadre et la forme du culte du peuple hébreu, autant la Nouvelle Alliance ne formalise que très peu la pratique et la forme de notre culte. C'est le temps où l'Esprit agit, si nous le lui permettons, il nous donne l'éclairage divin pour le moment et le lieu où nous vivons. Mais les apôtres nous ont laissé ce que Dieu leur a révélé pour nous via la parole. Alors faisons comme les croyants de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous le trouvons dans le livre des Actes au chapitre 17 et au verset 11. Le nombre de fidèles n'est pas un critère qui définit une église locale, ni le lieu de rencontre. Nous trouvons dans la parole, au début de l'histoire de l'église, de petits groupes se retrouvant dans des maisons ou dans des lieux divers, puis des groupes beaucoup plus importants, car l'église locale a une vocation prosélyte. Elle annonce la bonne nouvelle et amène des hommes et des femmes au salut au travers de la parole et à devenir des membres de l'église universelle, mais aussi de l'église locale. Voyons donc les caractéristiques spécifiques qui définissent ce qu'est une église locale. Un des points clés, l'adoration. C'est ce service qui apparaît dès le début de l'Église, où les chrétiens d'origine juive se retrouvent le premier jour de la semaine pour commémorer la résurrection, ce qui change de leur ancienne pratique où c'était le jour du sabbat qui était mis à part pour l'adoration. Plusieurs mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament désignent l'adoration. Le mot proskuneo signifie s'incliner, se prosterner. Le mot latreo a le sens de service religieux. Il est utilisé par Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 9. Un autre mot, sebomai, nous indique plutôt la notion de craindre Dieu. L'adoration pour l'Église est donc spirituelle. Les offrandes ne sont plus les sacrifices d'animaux, mais le croyant apporte son corps vivant, mis à part pour Dieu, comme l'enseigne Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre adoration spirituelle par nature doit se faire en accord avec les vérités révélées par Dieu, en accord avec l'enseignement de la parole. Un moment central du culte est le moment de la scène. C'est une institution donnée par Jésus lui-même à ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Les chrétiens du tout début de l'Église pratiquaient ce souvenir déjà de manière régulière. Il nous est dit au chapitre 2 du livre des Actes, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et un peu plus loin, qu'ils rompaient le pain dans les maisons en louant Dieu. Quelques années plus tard, lors de son passage à Troas, Paul participe le dimanche à une rencontre avec l'Église locale. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. L'Église locale est la sphère où s'exerce, ou doit s'exercer, du moins, la communion fraternelle. Et un des moments forts de cette communion est autour du souvenir du sacrifice de Jésus-Christ. L'expression de notre adoration passe aussi, bien sûr, par le chant. Ce n'est pas une pratique spécifique au temps de l'Église. Le peuple d'Israël, au long de son histoire, a chanté les gloires de l'Éternel. Nous pouvons penser à la traversée miraculeuse de la mer Rouge en Exode chapitre 14. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et toute la suite de ce chant. David furent avec Salomon de grands compositeurs. Nous trouvons beaucoup de psaumes qui étaient mis en musique. Salomon a écrit 1005 cantiques selon 1 Roi, chapitre 4, verset 32. La pratique de la louange et de l'adoration au travers du chant reste pour l'Église naissante une constante. Nous pensons à Paul et Silas priant, chantant les louanges de Dieu. Ils sont l'expression de notre joie, comme nous l'indique l'apôtre Jacques, qui exhorte celui qui est joyeux à l'exprimer par le chant de cantique. Pour conclure sur le chant, retenons le commandement de Paul à l'église d'Éphèse. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le chant participe donc, via l'inspiration d'auteurs œuvrant pour la gloire de Dieu, à notre édification. Je crois que nous sommes appelés aussi à être attentifs au caractère spirituel, donc inspiré par l'esprit de ce que nous chantons. L'enseignement est une autre des missions fondamentales de l'Église locale. Lors de sa création, cette mission était confiée aux apôtres, les croyants de l'Église naissante ne possédant aucun des livres du Nouveau Testament. La croissance extrêmement rapide de l'Église et son expansion géographique, favorisée par la persécution sévissant en Judée, berceau de cette dernière, amène les apôtres à voyager pour édifier et enseigner les nouveaux convertis, issus pour beaucoup encore du peuple élu, mais aussi de plus en plus du paganisme, de culture grecque ou romaine. Leur mission est de donner le cadre théologique de cette nouvelle ère qui s'ouvre, celle du temps de la grâce et aussi du temps des nations. Chamboulement total après des siècles sous la loi mosaïque pour les croyants d'origine juive et aussi pour les gentils venant du monde polythéiste. Mais les apôtres, ne pouvant être en permanence présents dans les églises d'Asie mineure et aussi implantés en Europe, donc assez éloignés les unes des autres, vont choisir des responsables qui devront veiller sur elles. Nous trouvons plusieurs passages qui nous parlent de ce ministère au sein de l'Église locale. Lisons en Actes chapitre 14, verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque Église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Au chapitre suivant, une délégation est envoyée vers les apôtres et les anciens à Jérusalem pour traiter d'une question importante. Leur rôle est donc de veiller sur l'Église comme des bergers sur un troupeau, mais aussi d'apporter l'enseignement et de garder l'Église de l'erreur. Nous trouvons de nombreux avertissements dans ce sens en lisant les Épîtres. La pluralité des anciens est aussi mentionnée, comme nous l'avons vu dans le passage d'Actes 14, verset 23. Nous le trouvons aussi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données. Il faut peut-être préciser que le mot désignant ces responsables vient de deux mots grecs, presbytéros, que l'on traduira par ancien, et du mot grec épiscopos, qui se trouve traduit par évêque dans ce dernier passage. Cette mission d'enseignement de l'Église locale n'a pas cessé avec le temps de la naissance de l'Église. Elle reste une de ses fonctions majeures, en recherchant toujours au travers des Écritures ce que Dieu veut nous dire pour nous aujourd'hui. Un enseignement connecté à la parole est l'antidote aux fausses doctrines. Il produit la vérité dans l'amour parmi les croyants. Il est la nourriture spirituelle du chrétien qui amène sa croissance. Le dernier point que je mettrai en avant dans les fonctions de l'Église locale est l'exercice des divers ministères, tels que l'évangélisation des incroyants au travers du témoignage et aussi l'exercice de ministères internes, tels que le service les uns envers les autres, dans diverses formes, la compassion, la miséricorde, l'hospitalité, l'aide aux plus faibles. La liste n'est pas exhaustive. La prière collective est une des activités importantes dans l'Église locale, comme nous l'enseigne le livre des Actes. Les premiers croyants persévéraient dans la prière. L'Église du XXIe siècle persévère-t-elle toujours dans la prière? Il y a aussi le ministère de la discipline dans l'Église. Nous trouvons un enseignement de Paul aux Galates à ce sujet, au chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. En conclusion, je dirais que l'Église locale est voulue par Dieu, qu'elle n'est pas une option pour le croyant qui seul dans son coin ne peut bénéficier des divers ministères rattachés aux dons variés de ses frères et sœurs et sera enclin à édifier sa propre vision, sa propre théologie, sans le secours des enseignements de ceux qui ont été appelés à édifier, à nourrir et prendre soin du troupeau. Elle est le lieu privilégié de la communion fraternelle, du partage et de la mise en pratique de l'amour de Christ. Vision idyllique, me répondrez-vous. Bien sûr qu'elle reste entachée de la part de notre vieille nature à chacun qui ne veut pas mourir de nos égoïsmes. Si notre monde se déshumanise d'une manière paradoxale, car utilisant un flot de communication et d'information continue via des réseaux soi-disant sociaux qui isolent de fait chacun dans sa bulle connectée, ne tombons pas dans ce danger et veillons chacun à apporter dans l'église locale où le Seigneur nous a placés notre part. Pour terminer, je veux partager deux choses très positives qui nous parlent de l'importance de la communauté de croyants. À la fin de son voyage vers Rome, après bien des péripéties dont un naufrage, il nous est dit que l'apôtre Paul reprit courage en voyant les frères de Rome venus à sa rencontre. Même le grand apôtre a besoin de cette communion pour reprendre courage. Et aussi ce verset qui m'a toujours interpellé et aussi encouragé, il se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors oui, que je sache rendre grâce pour mes frères et sœurs et donc pour l'Église locale. Merci pour votre écoute.